Le midi, on en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Jusqu'à 14h, on en jase. Par la suite, de 14 à 18, c'est le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey. 18h, Marceau du soir. Et ce soir, soyez à l'écoute. Pour 5 semaines à compter de 19h les lundis, c'est le nouveau podcast original de Boulevard 102.1, Les grands événements de Québec. Ça va se passer tous les lundis 19h. C'est un podcast qui est consacré aux événements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec. Pour chaque épisode, on revisite un moment clé avec des témoins et des acteurs de première ligne afin de comprendre ce qui s'est passé, ce que la ville a appris et comment ces événements résonnent encore aujourd'hui. Et ce soir, dès 19h, c'est la diffusion du premier épisode « Attentat de la mosquée, partie 1 » avec Denis Gravel et Jean-François Racine, journaliste au Journal de Québec qui a couvert l'événement. Un épisode consacré à l'attentat du Centre culturel islamique de Québec, raconté avec sensibilité par un journaliste qui l'a couvert de près, un regard humain, respectueux, essentiel sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire. Et ces podcasts sont une présentation de Climatisation Paquette pour la vente de produits Moveair, la marque la plus fiable selon Protégez-vous, installée par une équipe de techniciens d'expérience. C'est climatisationpaquette.com. Vraiment, soyez à l'écoute. Et demain, dans l'émission d'En jase, Denis va venir nous parler justement de cet épisode et des 4 épisodes suivants qui vont demeurer par la suite. On s'en va immédiatement le rejoindre via la plateforme Zoom. C'est Gabriel Arthaud, sociologue, chercheur et spécialiste en natalité, qui est avec nous. On va parler justement de cette étude, cette enquête origine-destination qui nous dit qu'il y a moins de monde qui traverse les deux rives. Mais pourtant, crime Mathias, toi, t'habitais sur la rive sud. Hey, t'es pogné ces ponts. Les gens nous écrivent le matin, on a pogné ces ponts. Encore un matin, 9h45. Le pont était au rouge sur la carte interactive de la ville. Voyons, où c'est qu'ils prennent ces chiffres-là?
Moi, je l'ai dit direct en partant là, vendredi dernier, quand cette étude-là est sortie. Je trouvais ça un peu ironique là, parce que le monde utilisait ça comme « Ah, il n'y a pas besoin de troisième lien. » Les déplacements baissent. Qui baissent ou non là, au cours des dernières années, ça reste qu'il y a un problème. Là,
ben oui,
le monde qui traverse ce pont chaque matin, qui reviennent chaque soir, là, le trafic le soir, tu veux revenir de Québec, des fois, ça te prend 1h30 pour un trajet qui en prend 30.
Énormément. T'as énormément raison, mon Mathias, et c'est pour ça qu'on parle avec Gabriel Arthaud. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres, les gars?
Ça va super bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Gabriel. Bon, Gabriel, l'étude disait qu'il y a une baisse de 4,8% des passages inter-rives entre 2018 et 2025. Est-ce que c'est réel ou non?
Ben, c'est ce que les chiffres disent. Fait qu'après ça, moi, on croit les chiffres. On croit les chiffres.
Parfait.
Ça, c'est
Mais ça se peut-tu qu'il y ait plus de déplacements dans une certaine période? Parce que 2018-2025, c'est quand même assez large.
Ouais. Puis là, c'est ce qu'il faut comprendre quand on regarde ces chiffres-là, c'est que tu sais, c'est des moyennes. Ça veut pas nécessairement dire que le comportement n'est pas nécessairement apprécié. Parce que je veux dire par là, c'est où est-ce que les gens traversent? T'sais? Parce que une des choses que nomme l'étude aussi, puis quand tu vas regarder dans les chiffres, c'est que les gens prennent plus, par exemple, le pont de Pierre-Laporte que le pont de Québec. Si tu as moins de passages en moyenne, mais qui sont tous concentrés en même place, ça va quand même te faire du trafic. C'est le principe du goulot d'entanglement. Hein? Tu mets tout le monde en même place, ben à la fin de la journée, c'est comme le film 300, là.
Ouais.
Si tu te rends tout à la même place, ben à la fin de la journée, tu as juste besoin de 300 personnes pour arrêter les gens, ben c'est le même principe pour le trafic. Si tout le monde va à la même place, ben ça va finir par tout aller vers le goulot d'entraînement.
Donc, cette particularité-là est importante de dire oui, il y a une baisse de 4,8%, mais compte tenu que cette baisse-là est attribuable au pont de Québec, le pont Pierre-Laporte continue d'être surchargé. Et en plus, le pont Pierre-Laporte est le seul qui peut accueillir le transport lourd.
C'est un des enjeux qu'on nomme depuis quelques mois, là, dont on parle, la fameuse sécurité de transport là, avec la ministre Guilbeault. La question, c'est dans ce cas-là, c'est pourquoi est-ce que ces changements-là ont lieu? Une des hypothèses qu'on a actuellement, c'est principalement le fait que dans le télétravail qu'il y a eu après la pandémie, on se rappellera, Il y a eu une recrudescence du trafic à ce moment-là. Fait que ça veut dire que de 2018 à 2025, le portrait a quand même changé. T'sais. C'est pas parce que la tendance a diminué en tout que ça veut nécessairement dire que de 2022, par exemple, à 2025, ça n'a pas réaugmenté.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que là, maintenant que les gens sont de retour plus au travail depuis la fin de la pandémie, et là, avec les gouvernements qui disent hey, wow, minute, là, c'est 3 jours au bureau, c'est 4 jours au bureau, les grandes banques font la même chose, les grandes organisations. Veut pas, le trafic va être voué à augmenter à compter de maintenant. Là.
Exactement. Puis aussi, une des choses qu'on sait avec le télétravail en mode hybride, c'est que les gens choisissent à peu près tous les mêmes jours, à savoir lequel des moments hybrides ils vont
T'as
choisir.
Tellement raison. Lundi, vendredi, puis là, t'es, ce matin, il faisait exception là, avec le pompier à la porte, mais lundi, vendredi, non, hein, c'est plus tranquille. Mardi, mercredi, jeudi, c'est l'enfer, la congestion.
C'est exactement ça. Fait que ça veut dire que techniquement, mettons, si tu as une moyenne sur une semaine, ben si ça se concentre sur 3 jours, tu peux avoir le même nombre de véhicules qui traversent le pont sur une semaine, mais vu qu'il y en a moins le lundi puis le vendredi, ben c'est dans le fond une plus grande concentration. Fait que tu as plus de trafic du mardi au jeudi, même si techniquement, c'est la même moyenne.
Puis, mettons, là, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça, comme j'ai dit, comme excuse à dire, hey, les déplacements baissent, pourquoi on dépenserait de l'argent dans un troisième lien? C'est-tu complètement fou de dire, hey, quand même, là, de un, il y a le télétravail, oui, qui peut l'expliquer. De deux, d'ici 2040, la région métropolitaine de Québec va avoir 1 million d'habitants selon les projections. C'est-tu complètement fou de dire qu'avec 1 million d'habitants en 2040, il faut avoir un peu de vision puis se dire, ben, à ce moment-là, si on n'a pas un nouveau pont qui se construit, si on n'a pas un troisième lien qui se construit, ça se peut qu'on soit un peu dans la marde.
Ben, les arguments des experts sont assez unanimes sur le sujet. En fait, j'en ai jamais vu quelqu'un qui dit le contraire là, en urbanisme. C'est que la chose qui ne changera pas, peu importe ce qu'on rajoute un troisième lien ou non, c'est le goulot d'étranglement, justement. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde va aller vers les mêmes endroits, c'est-à-dire souvent le centre-ville ou vers comme Sainte-Foy là, où justement, il y a le gouvernement, il y a les grosses compagnies d'assurance qui sont présentes. Fait que peu importe à quel point tu élargis ton entrée de ton entonnoir, ben, si tout le monde va à la même place, ça ne changera pas grand-chose pour ce qui est du trafic, parce qu'il n'y aura pas plus de place pour accueillir les chars. Fait que ce qu'on dit souvent en trafic, c'est que la chose la plus importante, c'est de réduire le nombre d'espaces que chaque personne prend. Fait que quand les gens disent que, par exemple, le tramway ou le transport en commun, ça aide, la vraie raison pour laquelle ça aide, c'est juste que si je mets 70 personnes dans 3 mètres carrés, c'est plus efficace qu'une personne par char. Fait que le but, c'est vraiment plus d'optimiser la quantité de place que chaque personne prend que d'optimiser la quantité d'endroits d'où les gens peuvent arriver. Fait que c'est un peu ça l'argument contre le troisième lien.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ben, ne pourra pas optimiser cette place-là parce que la ville va rester la ville. On ne peut pas vraiment agrandir Québec une fois que tu es dedans, mais on peut s'assurer qu'une fois que tu es dans Québec, tu prends moins de place.
Mm-hmm. Par contre, Gabriel, puis je réfléchis à voix haute avec toi, ouais. Si le transport en commun est justement a une efficacité pour réduire le trafic. Le tramway ne traversera pas les ponts. Fait que pour l'interrive, il faudrait développer du transport en commun, ce qu'on fait pas encore.
Ben, puis ça, c'est la partie un peu que... Le but, c'est pas nécessairement de s'assurer que le tramway traverse la rive, mais c'est que toi, une fois que tu traverses la rive, tu arrives à Québec, ben qu'à Québec, les gens prennent moins d'espace. Fait que même s'il n'y a pas de transport interrive pour le tramway, une fois que toi t'arrives, ces gens-là sont plus compactés, fait que t'as plus d'espace pour ton char. Mmh. C'est une des choses qui est bizarre, mais la meilleure manière d'aider les gens en voiture, c'est de s'assurer qu'il y a plus de transport en commun, parce que ça va leur laisser plus de place pour rouler.
En effet, je suis très, très, très d'accord avec toi. Est-ce qu'on est assez efficace en transport en commun à l'heure actuelle? À Lévis, je crois pas. On a un projet de voie réservée. Ici, à Québec, on a le tramway, mais ça va être quand même seulement une phase 1. On n'est pas encore assez efficace pour espérer ce transfert de port modal-là.
Ben c'est sûr. Puis, on l'a vu, un des problèmes avec les guerres politiques là, de jeu des différents paliers de gouvernement qui négocient, c'est que le tramway, on aurait pu le commencer il y a 10 ans, puis on ne l'a pas fait. T'sais. Ça gosse parce que c'est un sujet politique, c'est un sujet d'élection, puis c'est correct que les gens votent sur ces sujets-là, c'est super important, mais souvent on va faire la petite politique où on ne donne pas la meilleure information possible pour s'assurer que peut-être que je vais peut-être me ramasser des votes pour la prochaine élection. Puis ça fait que ça donne des délais. Puis les gens sont frustrés, puis c'est normal. Hein? Ça n'a pas été une super belle expérience d'attendre, puis de voir les travaux commencer, puis de ne pas se rendre quelque part. T'sais.
On parle avec Gabriel Artaud, qui est chercheur spécialiste et spécialiste notamment en natalité. Gabriel, tu es spécialiste en natalité, démographie. Dis-moi donc, là, à terme, là, en 2040, là, parce qu'on parle du tramway pour 2040, on parle d'un troisième lien aussi. À terme, qu'est-ce que ça nous prendrait comme infrastructure pour dire avec notre million de personnes qu'on va avoir dans la région de la capitale nationale, on s'en tire et on ne sera pas pogné dans un trafic comme à Montréal?
Ce qu'on, les choses qu'on a souvent besoin pour ces enjeux-là, c'est d'augmenter la densité de population, donc s'assurer d'avoir la meilleure quantité d'espace pour habiter les gens. Fait que, t'sais, on parle souvent de plus de logements, mais des logements à la bonne place, des logements aussi qui sont abordables. Parce que je peux rajouter 25 000 logements, mais si ils sont tous à 1 600 $ pour un 3,5, ben, quelle famille j'accueille, puis quelle famille avec quel revenu j'accueille.
Ouais, c'est ça, surtout avec l'inflation qu'on vit à l'heure actuelle en plus.
Exactement. Fait que le but, c'est de s'assurer d'avoir des politiques où on concentre les populations proches des endroits où ils travaillent aussi, parce que ça, c'est une chose importante aussi pour le transport. Si je peux rajouter 1 million d'endroits, mais si je dois faire 1 heure de route pour me rendre, ben, je rajoute quand même au transport. Alors que si je peux me déplacer à pied, si je peux me déplacer, puis ça me prend juste 5 à 10 minutes, ben, je suis moins longtemps dans le réseau. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Fait qu'on veut le plus d'infrastructures, c'est-à-dire des logements qui sont proches de où les gens travaillent, qui sont donc abordables, souvent le centre-ville est difficilement abordable, puis un ensemble de réseaux structurants du genre le tramway, après ça peut être d'autres affaires, là, mais qui s'assure que ce transport-là, quand tu n'es pas près de ton travail, ben, tu peux le faire de manière efficace, puis tu ne prends pas trop de place.
La
C'est vraiment les deux trucs.
Ouais, la densification, par contre, puis je termine là-dessus, j'ai l'impression qu'on vit un peu le contresens, on veut densifier, mais c'est tellement cher en ville, mais on n'a pas le choix de densifier en ville.
Exactement. Puis ça, c'est il y a un ensemble de règlements. Puis tu sais, ce sont des enjeux de. C'est bien rare que, à moins d'une bulle immobilière, là, que ça pète, que les prix vont descendre. Fait que tu sais, ce que ça prend, c'est des gouvernements qui décident d'investir ou d'agir dans par exemple, le logement abordable ou ce genre de programme-là. Mais bon, ça c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande une volonté politique assez grande.
En effet, Gabriel Arthaud, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. On en jase et au plaisir de se reparler bientôt.
Avec plaisir.
Salut mon ami. C'était Gabriel Arthaud qui est sociologue, spécialiste en démographie, chercheur, donc une personne très, très, très informée au fait. Alors, apprendre avec des bémols les statistiques qu'on a émises entre 2018 et 2025, la période de temps est trop élevée.
Oui, puis je pense aussi qu'il va falloir être réaliste à un moment donné, là, parce que là, Pont-Pierre Laporte, ça crée un entonnoir monstre. Puis je comprends parfaitement le principe qu'avec le tramway, il va y avoir moins d'autos sur les routes du côté de Québec. Donc, si tu traverses le pont plus rapidement, mais que tu es pris dans du trafic à Québec, ben ça sert absolument à rien d'avoir un lien supplémentaire, ça je le comprends. Mais on a des problèmes pour traverser d'une rive à l'autre actuellement. C'est bien beau le tramway à Québec, mais il va falloir un transport structurant qui traverse d'une rive à l'autre, et ça d'ici 2040. Si on commence à penser en 2040 à dire peut-être qu'il faudra en avoir un, bien, il va déjà être trop tard. Pour faciliter ce fameux ces transports-là interrives, pour moi, il faut deux choses. Un nouveau lien et un transport structurant qui traverse d'une rive à l'autre.
Oui, en effet, c'est le fameux réseau là, express de la capitale qui comprenait un troisième lien, un réseau de transport structurant qui était inséré à l'époque, qu'on doit tout simplement faire. Le Centre Bell a explosé samedi soir.
En territoire central, avec plein de retournées au banc. Alors, il n'a pas touché au disque. Voici Stavkovski. Il y a une ouverture. La passe est reçue.
Victoire du CH 5-2 sur les Leafs de Toronto. Rappel de Florian Jacka. Il a eu une passe. Il a fait un combat. 2 buts pour Noah Dobson. 2 buts pour Josh Anderson. Le Canadien qui s'en va à l'étranger cette semaine avec 3 matchs. 1 à Utah mercredi. Vendredi, c'est contre les Golden Knights. Et samedi, contre l'Avalanche du Colorado. Mathias, moi, je pense que ça va être une semaine quand même assez difficile pour le Canadien. Mais c'est une victoire qui fait du bien.
Ben écoute, on peut surprendre. Là. Je veux dire, on était dans une mauvaise séquence, je pense qu'on va pas s'en cacher. Puis quand t'es dans une mauvaise séquence au hockey, puis je l'ai dit aussi la semaine dernière, quand t'es dans une mauvaise séquence avec une équipe de jeunes, avec une équipe de joueurs avec moins d'expérience, c'est toujours plus difficile de rebondir. Tu sais jamais vers qui te tourner pour dire « Hey, faut que tu en donnes plus. Tu veux-tu mettre cette responsabilité-là sur Suzuki? » Je veux dire, là, on a eu un bon match. On est sorti. Dobesch a bien gaudé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une bonne performance d'un de nos gardiens. On l'a eu. Fait que si on peut continuer dans cette mouvoir-là, ben on peut aller s'en chercher 1, 2, peut-être les 3 prochains matchs. On ne sait jamais. Mais une chose est sûre, c'est que le Canadien a rebondi puis il veut revenir. Là. Matheson puis Dobson, moi je le dis, là, mais depuis le début de l'année, pour moi, ce duo-là est exceptionnel. On a un premier duo de défenseurs exceptionnel, puis on peut en être fier.
Faut leur trouver un petit peu d'appui pour ne pas qu'ils jouent autant de minutes. Et j'ai regardé cette fin de semaine, David Ranbacker a très bien joué à Laval. Donc, je ne serais pas surpris de le voir arriver avec le CH après la période des fêtes. Chaud rapidement à la NFL. Grosse surprise hier à Dallas. Touché spectaculaire de Dak Prescott. Il a plongé dans la zone des buts. Les Cowboys marquent 17 points sans réplique à Dallas pour surprendre les Eagles. 24-21. Dallas est toujours en vie à 5 victoires, 5 revers et un verdict nul. Parlant d'être toujours en vie, les Chiefs ont sauvé leur peau hier.
Need 7 for a first down.
Super early, but you got to be all over everything.
It's a blitz. Stepping up and heaving it, and Worthy makes the catch, and they're in field goal range.
Vous venez d'entendre le catch de Xavier Worthy en prolongation. Les Chiefs qui marquent 11 points sans réplique au quatrième quart et sauvent avec une victoire de 23-20 sur les Colts d'Indianapolis en prolongation. 6 victoires, 5 revers. Et je termine avec une petite mention basketball, les amis.
Looking for Ingram. Finds quickly the three. Big time bucket.
Septième victoire consécutive pour les Raptors de Toronto. Ça a bien été pour les Jays. Ça va très mal pour la saison des Leafs, mais surveillez au basketball les Raptors de Toronto. 12 victoires, 5 revers. C'est une distribution pratiquement parfaite de points sur le 5 partant. Hier, tout le monde a marqué au moins 12 points dans les 5 joueurs partants, ce qui fait en sorte que les Raptors de Toronto, qui ont commencé l'année à 1 victoire et 4 revers, sont maintenant à 12 victoires et 5 revers. Et ils pointent au deuxième rang de la section de l'Est. Donc, est-ce qu'au basketball, on aura une petite reprise de la saison 2019 ou est-ce que les Raptors vont imiter les Jays de Toronto et surprendre la planète entière du sport? Ça reste à suivre. Je vais vous tenir informé ici à l'émission. On en jase.
Ce serait quand même fou, hein, les Raptors qui surprennent tout le monde, qui font un beau, beau chemin en série avec les Blue Jays. Puis pendant ce temps-là, Toronto, Maple Leaf, dans les bas-fonds de la NHL.
Ah, ouais, ça va pas bien mais pour les, je crois pas qu'on a réussi à remplacer Mitch Marner avec le peu de profondeur qu'on a. On fait une courte pause et par la suite, on va parler avec Pierre Graff, qui est économiste de formation et surtout président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Hey, on parle de tarifs, on parle de difficultés économiques, on parle que c'est dur pour les entreprises. Ben, les jeunes, eux autres, les jeunes, ils ont plein d'idées. Les jeunes foncent et les jeunes sont convaincus de s'en sortir. Ça va faire du bien de parler de notre jeunesse avec Pierre Graff immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.